Something is high, more high.
Huge.
Une ville immense.
Dazzling.
Éblouissante.
Vibrant.
Vibrante.
Bustling.
Animée.
Il faut apprivoiser Bombay, la quadriller, la domestiquer. Pour y survivre, en connaître les dangers, les échauffourées, les surprises, savoir s'enquérir de ses humeurs comme celle d'une compagne imprévisible, savoir tenir sa place dans le flot des rues et dans le flux des hommes.
The colors,
les couleurs,
sounds,
les sons,
noises,
les bruits,
flavors,
les saveurs,
smells,
les odeurs,
the cosmopolitan mix,
le mélange cosmopolite.
Everything fascinated me.
Tout me fascinait.
Look at this, I'm recording something.
Tenez, regardez.
From Mumbai.
J'enregistre quelque chose pour vous depuis Mumbai.
On peut partir de Bombay, on ne peut pas faire partir Bombay de soi. C'est Salman Rushdie qui écrit ça. Il est bien placé, forcément, il est né sur place. Je suis d'accord avec lui, j'ai vécu à Bombay il y a 30 ans. Mais c'est comme si c'était hier. J'ai appelé des amoureux de la ville en leur demandant de me raconter, via des vocaux sur mon téléphone, leur vécu.
Océan, Bombay. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre.
Quand je suis arrivée à Bombay pour la première fois, c'était pourtant mon deuxième ou troisième voyage. Et pourtant, je me suis sentie dépassée par la ville. Je ne me suis pas sentie chez moi comme je me sentais à New Delhi. C'est une ville que j'ai dû apprendre à aimer. Et donc, la première fois que je suis arrivée, j'étais dans un petit hôtel dans Colabar, un petit hôtel qui était très très bien placé, totalement miteux. Hein. C'était l'équivalent de quelque chose comme 5 euros la nuit, à peine. Je me souviens, il fallait passer devant Gateway of India. On passait à côté de ce superbe hôtel de luxe, le Taj. D'ailleurs, j'avais voulu rentrer pour boire un verre et j'avais mis les quelques beaux habits que j'avais pris pour le voyage. Malgré tout, je me suis fait refuser l'entrée. Et pour aller à l'hôtel, je longeais la mer et la grande rue, la Ramchandani Marg. C'est vrai qu'il y avait ce contraste entre les voitures, le trafic et ces vieilles maisons de Bombay, ces arbres. Quand même, on sentait que ce quartier avait été paisible un jour. Et puis, un petit peu plus loin, au bout de la rue, il fallait tourner, passer devant un petit coin un peu malodorant, puisque c'était un endroit où les personnes du quartier venaient faire leurs besoins. Et ensuite, on arrivait à l'hôtel. Ça s'appelait quelque chose comme le Sea View ou alors le Sea Ground. Il n'y avait rien de grandiose, absolument rien. Les chambres étaient des boîtes alignées les unes aux autres. Les cloisons étaient faites de feuilles de placo, je ne sais pas. Enfin, ce n'était pas des vrais murs, en tout cas, entre chaque chambre. Mais c'était pas cher et c'était extrêmement bien placé. Et je suis restée un petit peu cloîtrée dans l'hôtel quand je suis arrivée. J'entendais les bruits de la rue. Et j'ai mis quelques heures avant de sortir pour aller explorer et trouver à manger.
It was all new.
Tout était nouveau, excitant.
And charming.
Et charmant aussi.
So many windows open.
Tant de fenêtres ouvertes.
J'avais jamais pensé à aller en Inde, c'était pas mon truc. C'était juste, on est obligé de passer par l'Inde pour aller au Sri Lanka. Voyage très long, parce que, je sais pas, à l'époque, on regardait pas, on prenait des charters. 5 escales avant d'arriver, tout était bien, tout était nouveau. Arrivé à Bombay sous une pluie torrentielle, saison de mousson, on sort de l'aéroport, et on avait une caméra Beaulieu, un magnétophone, appareil photo, des Nikon, les objectifs, on avait plein de matos, on avait pratiquement aucune affaire perso, tout était dans le matériel, la pellicule à l'époque et tout, un sac à dos plein de peloches et tout. Et donc on sort de l'aéroport et on voit un bus de transfert navette aéroport Bombay. Donc on rentre dans le bus, assez hébété quand même par la pluie, la chaleur, par l'arrivée dans ce pays dont on n'avait pas forcément rêvé mais qui était si loin. Et donc on s'assied dans le bus, on se met à regarder, on voit que des dames qui transportent des petits plateaux de cailloux sur leur tête. Pour aller les déverser dans un endroit pour construire le nouvel aéroport. Des centaines de dames qui marchent en long et en travers, en sari. Des pauvres dames. C'était dans les années 70, maintenant il doit y avoir un aéroport. J'y suis pas retournée récemment, mais il doit y avoir un aéroport magnifique. Thomas Daly, l'aéroport, c'est que de la moquette par terre. La moquette dans un aéroport. Je rencontre un peu le truc de bling-bling, dément. C'est à peine s'il n'y a pas des cascades d'eau, des trucs. Donc, on reste dans ce bus, puis au bout de à peu près 2 heures, on s'aperçoit que le bus, il ne bougera jamais. En fait, il est comme une épave, tout. Oui, on ne bougera jamais. Il n'y a jamais un chauffeur qui est venu, ni personne. On est là juste en train de regarder ce qui se passe autour de nous.
Mumbai. The word evokes so many memories of the city.
Le mot évoque tant de souvenirs de la ville.
My earliest memory is the travel from
Mon tout premier Goa souvenir est celui d'un voyage de Goa à Mumbai
by steamer
en bateau à vapeur.
And at that time it used to land at Bhautadaka.
Et à l'époque, il accostait à Bhautadaka. Et je me souviens, enfant, dès qu'on se rapprochait de Mumbai, j'avais l'habitude de dire « Regardez, voici Mumbai, voici Mumbai !»
And for many years later,
et bien des années plus tard, mon père et ma famille me taquinaient en me disant que je répétais toujours
« Mumbai »
à l'approche de la ville.
So those are the earliest memories I have.
Ce sont donc les premiers souvenirs que j'ai de la ville.
Of the city.
Bombay, qu'on appelle aujourd'hui Mumbai, est un des grands centres cinématographiques de l'Inde. C'est la capitale du cinéma indien qui est peut-être le plus connu aujourd'hui, même s'il est en train de se faire dépasser par un autre cinéma populaire. C'est la capitale de Bollywood. Moi, c'est le cinéma duquel je suis tombée amoureuse en premier. Et c'est Bollywood formé sur Hollywood plus Bombay. Et c'est vrai que même si on appelle la ville Mumbai aujourd'hui, dans le cinéma et sur place, mes amis réalisateurs, chefs opérateurs, comédiens et comédiennes disent toujours Bombay. Bombay et pas Mumbai.
Je suis désormais dans un taxi sur la route entre la ville jumelle de Navi Mumbai direction la ville originelle de Mumbai, qui est Ratchidu Kala Gruda, là où nous nous sommes rencontrés il y a plus de 10 ans. L'humeur est au beau fixe, chaleureuse, enchantée et joyeuse.
Quand je me sens trop loin de Bombay, je regarde dans ma bibliothèque rayon Inde. Je prends un livre, je tourne les pages et je plonge. Pour le poète Arun Kolhatkar, Bombay, c'est une ville bouffeuse de ciment, suceuse de sang, qui pisse de l'argent, chie de l'or et s'étouffe en vomissant.
Donc ça y est, c'est le matin, je prends un gros sac, j'oublie pas ma doupatta, là, les longs foulards que les femmes on peut mettre autour du cou et qui cachent la poitrine. C'est hyper utile quand on prend le train coincé par des centaines de mecs autour de vous. Moi, pour prendre le train, donc c'est les trains de banlieue, c'est le nord, et donc il faut que j'aille dans le sud, là où je travaille, à Churchgate, terminus. Et tous les matins, je dois prendre ce train, et ce train, c'est la guerre, quoi. Et donc, moi, me voilà avec mon grand sac et ma doupatta, et des fois, je mets des salwar camises, et des fois, je mets juste des tuniques, hein, des kurtas sur un jean. En fait, je préfère la kurta jean au salwar camise, qui est plus tradi. Ce sont ces grands vêtements amples, alors c'est très pratique quand il fait chaud. Mais en fait, je sais pas, c'est pas vraiment moi. J'aime bien les trucs un peu plus stylés comme mes copines, un peu mélanger le genre, un peu occidental et un peu indien.
La première chanson à laquelle je pense quand je pense à Bombay en chanson, c'est celle-ci, Mera Juta Hai Japani. C'est une chanson qui vient d'un film de Raj Kapoor, un film qui s'appelle Shri 420, et qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme un petit peu naïf qui quitte sa campagne pour aller à la grande ville, pour aller à Bombay, pour gagner de l'argent évidemment. C'est un personnage très attachant qui est inspiré du Charlot de Charlie Chaplin. Et j'ai appris cette chanson en première année de Hindi. Alors certes, on l'apprenait surtout pour mémoriser du vocabulaire assez simple, mais elle est restée très importante pour moi. Elle s'est liée, on va dire, avec le film pour toujours à Bombay. Hein. J'ai gardé cette image d'une ville-monde dès les années 50. Et ça a guidé certaines de mes recherches, puisque le refrain insiste sur le fait que l'Inde est un pays qui est déjà mondialisé à l'époque. Le héros, qui est pourtant un héros qui vient de la campagne, nous dit « Mes chaussures sont japonaises, mon pantalon est anglais, mon chapeau est russe, mais mon cœur est indien. »
Femmes en salwar kameez ou en sari comme des icônes, vaches somnolentes arrêtées en travers de la route, jeunes insolents en lunettes de soleil, chèvres nerveuses, musulmans portant le bonnet de prière, écureuils et rats cascadeurs, femmes en burqa noir, chiens honteux, hommes en pagne de tissu madras, chats faméliques, sikhs au turban acidulé, poules inquiètes, quadragénaires moustachus en costume cravate, pigeons et corbeaux sentinelles, écoliers en uniforme, cafards.
L'Inde, un million de révoltes, c'est le premier livre que j'ai lu avant de mettre un pied à Bombay. C'est V.S. Naipaul qui raconte. Il y avait de grandes affiches de films sur des panneaux, de plus petites accrochées au réverbère. Il était difficile, dès mon arrivée, de faire la relation entre le romantisme promis par les affiches et les gens assis par terre. Pour l'étranger, qui arrivait tout juste après un vol de nuit, la ville qu'évoquaient ces réclames ressemblait à une distillation presque inimaginable, une liqueur spéciale et riche de l'humanité qu'on pouvait y voir.
Et la route de l'aéroport à la ville de Bombay, il y avait à l'époque des grands cylindres en ciment qui servaient à mettre toutes les canalisations de la ville. En fait, ils avaient été pris par des gens qui vivaient dedans, c'était des bidonvilles. De l'aéroport à la ville de Bombay, c'était un bidonville.
Trottoirs inexistants, eux-mêmes encombrés de poubelles, d'étrons, de vieillards endormis.
I have been on the street most of my life.
J'ai passé la majeure partie de ma vie dans la rue.
I'm still
Je suis toujours dans la rue.
It is startling,
c'est surprenant,
irreverent,
choquant,
exciting,
excitant,
agonizing,
angoissant,
desperate,
désespéré,
raw,
brut,
even tragic.
Et même tragique.
Finalement, on trouve un hôtel qui nous semblait pas mal devant Marine Drive. Marine Drive, c'est la baie de Bombay. C'est très, très beau, quoi. C'est un grand boulevard avec des immeubles, années 40-50. Et quand on est dans la chambre d'hôtel, on peut à peine voir par la fenêtre parce que c'est tout poisseux. C'est à cause de l'humidité, de la mousson.
En effet, quand on passe à Bombay avec les odeurs, avec à l'aéroport, quand on fait une escale, on se dit, mais c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'en arrivant en Inde, la première chose à faire, c'est d'essayer de se préserver de cette Inde agressive, donc choc culturel, les odeurs, le bruit, la foule, on est perdu.
In the chaos,
dans le chaos,
disorder,
le désordre,
madness,
et la folie.
Donc se trouver un endroit tel qu'on a imaginé l'Inde, c'est-à-dire un petit endroit au bord de la mer, tranquille, voilà. Du côté de Nepenthe Road, Malabari, Walkeshwar, on arrivait à trouver cette Inde éternelle, agricole, entre guillemets, perdue au fin fond de la presqu'île de Malabar Hill, petit endroit préservé où le temps semblait s'être arrêté. C'est pour ça que je me suis installé à cet endroit-là.
Je suis à Hill Road, à Banjar. Hill Road, c'est une des rues les plus importantes de cette banlieue, qu'on nommait dans le temps la reine des banlieues. C'était un nom bien mérité parce qu'il y avait plein de rizières, de petits pavillons entourés de jardins et puis bien sûr de très belles églises avec leurs paroisses bien entretenues, les rues qui étaient propres. C'était un trou de verdure, pour reprendre le mot de Rimbaud. Et c'était tellement tranquille et calme que les grandes stars du cinéma indien se réfugiaient ici pour être loin du peuple, de leurs fans qui faisaient leur gloire. Aujourd'hui, les choses ont changé, bien sûr. Les rizières ont disparu. Mais il y a toujours quelque chose qui reste.
Le petit bolide à trois roues tapissé de stickers Fast and Furious se lance à toute allure sur les voies rapides, sans craindre les nids de poules, et rue avec une agressivité exacerbée.
Je prends un rickshaw pour zoomer en fait dans le dédale de ruelles et donc ça sent aussi le béton, en tout cas le ciment, et puis ça sent surtout le bitume en train de cramer parce qu'il fait très chaud. Même quand c'est la mousson, ça sent toujours un peu le pétrole, le plastique. pas mal de plastique qui brûle aussi. Donc il y a toutes ces odeurs en fait qu'on embarque avec soi, plus évidemment les gaz des pots d'échappement hein, quand on est dans le trafic. Parfois on peut mettre 10 minutes juste pour faire 500 mètres.
Au moment où je vous laisse notre vocale, je marche avec quelques rats du coup qui s'échappent du terre-plein central. Mais par exemple à Bombay, je me suis totalement vacciné de la peur des rats. Parce que comment dire, avant d'aller à Bombay, j'avais eu la chance de faire quelques années d'études à New York, où déjà le nombre de rats est décuplé par rapport à une ville comme Paris. Mais à l'époque, quand je voyais 2-3 rats courir côte à côte vers moi, je bondissais de peur. Parfois c'était une quarantaine de rats qui arrivaient comme ça en groupe, sans aucune vergogne vis-à-vis des humains. Et donc ça m'a appris à dépasser ma peur du rat qui file entre les jambes. Au final, j'ai beaucoup sillonné la ville, je me suis acclimaté à énormément de quartiers différents. Et j'adore, à la fois le côté luxuriant de la ville avec cette végétation qui reste quand même assez tropicale, et toute cette architecture qui est faite d'immeubles d'époque coloniale, d'immeubles très récents, de parties beaucoup plus appauvries et miséreuses, de bidonvilles. Et cette sorte de fatalisme en fait aussi des Indiens, l'odeur aussi bien sûr, l'odeur si particulière de Bombay, de l'Inde, qui prend tout de suite au nez quand on pose le pied à l'aéroport. Après je pourrais parler encore vraiment très longtemps de Bombay, mais c'est une ville que j'ai vraiment très au chaud, collée à mon cœur. Je me sens vraiment chez moi à Bombay, donc ce qui est sûr c'est que c'est une ville qui met un peu plus de temps qu'une autre peut-être à être appréhendée, mais une fois qu'on l'aime, on l'aime vraiment à mon avis pour toujours.
Nous sommes Mumbaikars, c'est-à-dire nous appartenons tous à cette ville de Mumbai. Je ne dirais pas que la ville nous appartient, mais nous appartenons à cette ville magnifique, à cette ville à grand cœur, à cette ville si efficace, à cette ville qui sait ce qu'elle veut et l'obtient. Ce sens de concentration qu'elle offre. Je dis toujours de l'Inde et de Mumbai que le sucre est plus sucré et le sel plus salé ici.
Je me souviens avoir mangé du jirakulis, des bonbons au cumin, à l'ombre, à l'extérieur d'une école, puis être passé à la ferme laitière de Jain pour prendre du lassi.
The lassi, which was the most delicious and exquisite lassi which
qui était le plus délicieux, le plus exquis que j'ai jamais mangé. J'ai un autre souvenir très vif. Vous savez, parmi les souvenirs heureux de notre enfance, il y avait les plats à emporter. La plupart du temps, à cette époque, on mangeait à la maison. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Et je n'oublierai jamais les gâteaux marbrés de chez la compagnie Medval, ni les cafés iraniens, vous savez, de la Grand Road East, ou bien le poulet biryani à Avon sur la Grand Road. Et ce délicieux Konkani, la cuisine à base de poisson, vous savez, dans un ashram en péril, à Kota Chavati. Et de sillonner ces terres sinueuses où on allait acheter des plats à emporter avec ma mère. Et vous savez, ils voulaient toujours nous faire repartir avec un doggy bag.
Je pense qu'il y a un Bollywood pour parler de tout. Et si je pense nourriture indienne, plats indiens, je pense à ce film « Dawat et Ishq » qui est vraiment merveilleux et qui donne extrêmement faim. Mais moi, quand je suis arrivée à Bombay, mon premier repas a été assez difficile. Comme je le disais, j'ai été assez dépassée par la ville et j'ai eu du mal à sortir de la chambre d'hôtel. Je ne suis pas allée très loin pour mon premier repas. Je suis allée m'installer dans un tout petit restaurant en bas, un restaurant musulman, dans lequel j'ai mangé quelque chose de très simple. J'ai pris un chicken biryani au poulet.
Everything is cheap. Everything is in plenty.
Tout est bon marché. Tout est en abondance.
I can have an unlimited vegetarian thali in a decent
restaurant. Ici, je peux avoir du thali végétarien à volonté dans un restaurant décent pour $1.
And I'm not talking of street food.
Et je ne parle pas de street food.
On the street,
dans
I can
la
have
rue,
two or three
je peux prendre deux ou trois repas pour $1.
I'm talking of a very
Je parle de restaurant décent, de classe moyenne.
Decent restaurant. Where you get four vegetables,
où vous pouvez manger des légumes, rice, du riz à volonté,
one sweet,
un dessert,
two chapatis,
deux chapatis,
and
et des chas ou des lassi ou du curd,
or curd as you
tout ce que vous desire. Désirez pour 100 roupies.
For 100 bucks.
Mahim, à Glass Station, Mahim. Mahim, next station, Mahim. Ça, c'est comme ça tout le long. La première fois que je l'ai pris le train, j'étais paniquée. On m'a expliqué que c'était l'épreuve la plus difficile quand on habite à Bombay. Au fur et à mesure, je me suis habituée. Le plus choquant, c'est peut-être cette foule immense qui déborde, qui dégueule en fait des wagons. Quelle que soit la station, sauf peut-être sur des heures vraiment très creuses. Moi, mes copines, elles m'ont toujours dit de ne pas le prendre trop tôt le matin quand tous les travailleurs partent au travail. Plutôt essayer d'éviter justement les 7h, 7h, 9h, essayer d'arriver au travail un peu plus tard si je pouvais me le permettre. Donc j'ai vraiment appliqué leurs conseils à la lettre. Parfois on n'a pas le choix. Et là c'est la cohue et tout le monde vous rentre dedans. Alors les coups de coude dans les seins, dans les hanches, tous les types qui en profitent, le nombre de fois je me suis fait pincer, le nombre de fois où j'ai pris des mains aux fesses. Et au début, je ne savais pas très bien comment faire avec tous mes outils de défense, en fait, qui sont les sacs, les parapluies. Et là, j'ai compris quand j'ai parlé avec des filles et des femmes plus âgées, les épingles à nourrice dans les cheveux, c'est pas fait juste pour tenir ses cheveux, en fait. Il y en a qui se baladent avec du piment aussi, du chili. Ça, c'est très pratique. S'il y a besoin d'en mettre dans les yeux de quelqu'un, en général, ça fait mal. Et puis surtout, en fait, il faut fondre la foule. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. Ils sentent quand vous avez peur, ils sentent quand vous êtes mal à l'aise, ils sentent que vous êtes une nouvelle.
En fait, Bombay, c'est un endroit qui fait prendre conscience du fait qu'on est vivant, en fait. C'est un endroit qui surstimule les sens dès le début, dès l'arrivée. On ne sait pas trop où donner de la tête, en fait. Il y a plein de choses à voir tout le temps. Qui peut donner une impression d'être surstimulé en permanence au niveau des sens. Et puis alors le goût, évidemment. Moi, Bombay, c'est une ville qui me fait me sentir particulièrement vivante. Et de la bonne manière. C'est une énergie assez positive qui se dégage de cette ville.
Alors, ce sont les sons d'un quartier du sud de la ville de Mumbai, anciennement Bombay. Un quartier qui s'appelle Kamathipura et où sont regroupés de nombreux travailleurs du métal. C'est un quartier qui, pendant longtemps, a été considéré comme l'un des plus grands quartiers de prostitution de l'Asie, en tout cas depuis la période coloniale. Et aujourd'hui, il n'y a plus que quelques maisons donnant sur la route principale qui rappellent encore cette réalité. Dès que l'on s'engage dans les ruelles perpendiculaires à cette route principale, c'est un autre monde qui apparaît, un monde relativement invisible, mais que l'on peut découvrir par son bruit étonnant, celui des martèlements du métal et du vrombissement des machines. Kamathipura, en fait, c'est un véritable quartier de production industrielle, avec des dizaines d'ateliers spécialisés dans la fonte, la découpe, le pliage, le sillage, bref, la fabrication de tout un ensemble d'objets en métal. On va y trouver toutes les formes imaginables de tubes, de structures métalliques, de vaisselle, autant d'objets qui vont être acheminés aussi bien sur des chantiers de construction que dans différents magasins de la ville ou encore, non loin de là, à Chor Bazar, dans le quartier des fausses antiquités.
Il travaille qu'avec sa tête, la ville est mécanique, il doit courir tout le temps, il n'y a pas de temps, on rate le train, on rate le bus, il faut être à l'heure au bureau, mais il prendra le temps, dans ce train, bondé, de faire un petit groupe d'amis qui vont jouer aux cartes, qui vont chanter, qui vont danser, qui vont échanger des recettes. On a des groupes de femmes qui coupent et vendent des légumes pour que d'autres passagers les achètent et ramènent chez elles pour faire la cuisine un peu plus vite.
Il faut comprendre à quel moment il faut grimper. Pas trop tard, parce que sinon on risque de se faire mal, le train va trop vite. Quand le train arrive en gare,
qu'il ne faut pas, surtout pas se précipiter, sauf si on est très très alerte, très habitué et qu'on n'a pas trop de bagages. En fait, il faut attendre le bon moment, quand le train ralentit et que ça crisse un peu sur les rails, mais pas trop. Il faut laisser, attention, bien laisser les gens descendre. Tout le monde saute du train en marche. C'est normal, il n'y a pas de porte qui ferme, les portes sont toujours ouvertes. Donc les fenêtres sont grillagées et les portes sont toujours ouvertes, ce qui permet de laisser l'air passer bien sûr, mais surtout des gens de monter et sortir très vite. Donc une fois que les premières personnes ont commencé à sauter, et quand on est un petit peu aguerri, là on saute.
I'm on a long and delightful road.
Je roule sur une longue route très agréable. L'Eastern Express Freeway.
A fantastic stretch.
Un fantastique tronçon de béton et d'asphalte tout du long. Il y a des constructions partout. Nouvelles routes, nouvelles usines, nouvelles écoles, nouvelles universités, nouveaux hôpitaux. Tout y passe. C'est toute l'infrastructure qui a été revue. De tous côtés, Mumbai est en plein essor.
Elle est une ville d'idées novatrices, d'idées géniales. C'est une ville de survie. Et je pense qu'une ville qui fait de la place pour l'autre, une ville qui donne sa place d'honneur au travail et à la dignité du travail, et une ville qui sait aimer son prochain, c'est ma ville, c'est Mumbai.
Les trains à Bombay, heureusement, on a ces compartiments pour femmes qui nous permettent d'éviter les regards appuyés, le harcèlement et les agressions sexuelles pendant que vous rendez au travail. Mais c'est pas simple parce que dans les compartiments pour femmes, il y a beaucoup de monde aussi. Et les femmes, elles sont beaucoup, beaucoup plus actives que les hommes. Elles préparent à manger. Et puis il y a aussi celles qui vendent des petits snacks. Parfois, il y a aussi les vendeurs de thé, bien sûr. Et tout ça, ça fait un bruit un peu doux au final, un bruit un peu familier. Ce bruit, il m'accompagne jusqu'à ce que j'arrive à Churchgate. Et là, à nouveau, c'est le grand dégueulement humain dans la station de Churchgate, qui est une vieille gare qui date de l'époque coloniale. Et là, on croise tout le monde, tous ces gens qui sont très bien mis sur eux, très propres, avec des complets, avec des chemises immaculées, des saris parfaitement repassés, des épingles à nourrice qui n'ont pas bougé. Alors que moi, en général, quand je sors du train, je suis complètement échevelée, transpirante. Ça m'est arrivé aussi, pendant la mousson, de sortir avec une courta noire et qui était en fait devenue blanche avec le sel, tellement j'avais transpiré. Et ça, c'est un mystère. J'ai jamais compris, en fait, comment les gens étaient aussi chics et restaient aussi propres après avoir fait un trajet aussi infernal.
Bombay est une fête foraine. L'orchestre est à son comble. Fabuleux magma sonore. Au premier plan, les voix. Clameurs des portefeuilles, employés de bureaux pendus à leurs cellulars, tout déchirés des tuberculeux. Au second, le dialogue des véhicules. Klaxons des voitures, moteurs et pétards, sirènes des ambulances, grelots des bicyclettes. En bruit de fond, le fracas des chantiers et des garages. On frappe, on ferraille, on soude, on scie. Tout semble incandescent, le goudron défoncé des routes, le miroir du ciel blanc, et même le fond des hommes, là où, dit Vass, croupit la maladie.
À Bombay, bien sûr, à chaque fois, je voyais des patients qui venaient récupérer leur passeport, leur billet d'avion, qui parfois étaient amenés par des amis, ou que parfois j'étais allé chercher à Goa. Donc j'ai des souvenirs comme ça, bien sûr, de patients ayant tout cassé à l'hôtel, qu'il fallait aller chercher, à qui on payait un billet d'avion, qui repartait, etc., des bouffées délirantes. Mais aussi, bien sûr, de toxicomanes. Donc, au début, j'allais les chercher à Goa, et puis après, j'ai fait des missions préventives qui me permettaient d'aller tous les mois et de ne pas me précipiter sur les patients pour les ramener en vitesse, de force. Voilà, donc j'ai comme ça pas mal de souvenirs où des patients sont restés chez moi ou ont commencé à aller mieux dès qu'ils avaient trouvé quelqu'un qui parlait leur langue, dès que le retour en France était envisagé. Voilà.
Ne reste qu'une possibilité à la ville pour survivre à la cacophonie, la recouvrir du crachat radiophonique de stars bollywoodiennes, dit Topagalhe, mon cœur est devenu fou.
C'est फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है, यही हंसाता है, यही यही रुलाता है।
Alfred, c'est l'un de mon cinéma favori à Mumbai. Donc qu'il soit beau ou séduisant, bien au contraire. L'Alfred tombe en ruine. C'est un vieux théâtre du 19e siècle dans lequel fut dressée une toile blanche sur la scène. L'Alfred accueille aujourd'hui toute la pègre de Grand Road, quartier historique du trafic de drogue et de prostitution à Bombay. On y fume de l'héroïne sur du papier d'aluminium. On y cuve son alcool frelaté à même le sol, au pied de la scène, dans l'obscurité d'une séance interminable. Les films qui y passent sont des copies anciennes, des succès Bollywood des années 90 qui passent en boucle dans ces cinémas de seconde zone. Mais Alfred est touchant, avec sa façade un peu tordue, qui semble prête à s'effondrer. Il est fait de briques et de broc, et dans ses vitrines s'alignent les samosas gras et les paquets de chips indiennes. Il révèle sa beauté brute à celui qui saura patienter. C'est sans doute pour cela que j'attends Rayman depuis 2 heures dans le lobby. Rayman est le peintre d'affiches de l'Alfred Talkies. Je l'ai découvert dans un documentaire allemand et je rêve, moi aussi, de pénétrer son antre. Son atelier de peinture, installé à l'arrière de l'écran de projection. Pour le moment, dans le lobby de l'Alfred, en attendant Rayman, je vois défiler des estropiés au bandage purulent. Dehors, un règlement de compte entre prostituées qui se repoussent à coups de vieilles planches en bois. Grand Road est l'un des rares endroits où la misère humaine, celle qui avait tant frappé Louis Malle à Calcutta, est encore visible. 30 roupies pour une place au balcon, 15 pour le parterre. Enfin, Rayman surgit. Son regard est rieur, et du haut de ses 80 ans, il n'a plus aucune dent. Les Rayman sont peintres d'affiches de père en fils. Sur les murs de l'atelier, des portraits de son père et de son grand-père cohabitent avec des esquisses préparatoires et des portraits d'acteurs célèbres. Barsad Kirat, Mughal et Azam, Sangam, des classiques qui font toujours recette. Rayman peint leurs personnages depuis des décennies. Des visages verts pour les méchants, du bleu pour les héros.
Alors pour cette deuxième chanson, on change radicalement d'ambiance. On est très loin des années 50 et de Raj Kapoor. On est en 2007, c'est un film qui s'appelle Shakalaka Boom Boom. Alors je triche un peu parce que ni le film ni la chanson ne sont iconiques. C'est un film un peu de seconde zone, on va dire, dans l'histoire du cinéma de Bollywood. Mais c'est un film important pour moi parce que j'ai été figurante dans ce film. Donc on est en 2006, c'est lors de mon premier voyage à Bombay. C'est une très belle soirée. De fin août, début septembre, la mousson nous laisse un petit peu tranquille et je sors du très célèbre Léopold Café après avoir dîné et un jeune homme s'approche de moi et me demande si j'ai envie de participer à un tournage de Bollywood. Ça prendra toute la journée, tu seras de retour à l'hôtel vers 20h30 et c'est payé 500 roupies. Donc évidemment, je prends à peine le temps de réfléchir et je lui dis oui tout de suite. Donc à ce moment-là, vraiment, je me dis, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Je suis payée pour être figurante dans un Bollywood. Donc le lendemain matin à 8h, j'arrive au point de rendez-vous. Je monte dans le bus avec les autres participants. On n'est pas très nombreux, je pensais qu'il y aurait plus de monde. On se lance dans une expédition au fin fond de Bombay. J'ai l'impression que ça dure des heures et des heures d'embouteillage. On arrive dans un studio, bon, qui est pas Film City. Hein. J'ai pas eu la chance d'aller à Film City. On arrive dans ce studio qui est dans une ancienne prison. Et là, quand même, je me dis, oh là là, dans quel pétrin est-ce que je me suis fourrée? On rentre sur le plateau, tout a l'air tellement faux, tellement carton-pâte, presque miteux, en fait. Et je me dis, mais c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ce film? Est-ce que c'est vraiment un Bollywood? Et puis, on s'installe. Et voilà, je comprends très vite qu'on est là pour faire les figurants dans une scène de danse. J'assiste à un tournage et en plus à une scène de danse. La horde de danseurs et danseuses arrive sur scène. Les lumières s'allument. La musique retentit. La caméra se met en marche. Les stars apparaissent. Et là, je me dis, ça y est, on est au pays de Bollywood.
Soudain, on a été réveillés par des éclairs, un jet de lumière incroyable qui traversait tout l'appartement. Et puis soudain, retour au noir. Puis à nouveau des éclairs gigantesques. Puis retour au noir. C'était comme si une main invisible avait le pouvoir d'allumer, d'éteindre. On n'avait jamais vu ça de notre vie. Puis il s'est mis à pleuvoir très fort. Une aubaine pour nous. On n'attendait que ça. On est vite descendu avec la caméra. Quand on est arrivé en bas, l'eau était déjà à hauteur des genoux. Il y a un taxi qui est passé, qui s'est arrêté. On a tenté d'expliquer au gars ce qu'on voulait. On aurait voulu aller dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau pour filmer les gens, d'un endroit le plus spectaculaire au niveau de la mousson. Je ne sais pas ce qu'il a compris. Mais il a vu qu'on était des Occidentaux complètement perdus dans la nuit et sous la pluie. Et il nous a déposés à Falkland Road, c'est le quartier rouge de Bombay. On était dans le quartier chaud pendant la mousson, la nuit.
Bombay, de nuit, change de visage. Moi, ce que j'aime bien, c'est sortir dans les endroits qui craignent un peu. Pas les endroits chics, pas les lounge bars qui copient les bars occidentaux où tout le monde allait dans le sud de la ville. Moi, j'aimais bien aller aussi dans des endroits qui étaient un peu plus réservés, un peu plus confidentiels. À l'époque, on parlait beaucoup des dance bars. Les dance bars sont des bars à hôtesses où les femmes dansent de façon très, très sexualisée pour un public d'hommes. Parfois, il y a prostitution, parfois pas. En général, les femmes qui ne sont pas elles-mêmes des hôtesses ne sont pas admises dans ces bars. Et puis, entre 2006 et 2013, les bars étaient sous arrêtés municipaux et donc devaient tous fermer. Il y avait quand même des bars encore qu'on appelait des bars de nuit, qui s'appelaient des bars-restaurants. Souvent, ils se cachaient le truc avec une salle familiale, family room, qui permettait de venir déjeuner ou dîner avec femmes et enfants sans alcool. Puis il y avait toujours une salle, évidemment, il n'y avait que des mecs. Et moi, j'aimais bien aller dans ces endroits-là avec l'homme que je voyais à ce moment-là. Parce qu'il se passait des choses, il y avait une autre vie, il y avait cette vie très complexe de Bombay qui émergeait. Les cols blancs qui sortaient du travail à 18-19 heures et qui allaient se mettre une caisse, clairement, du whisky, du Chivas, pas très bon, en tout cas celui, ceux qui pouvaient se le permettre déjà, c'était bien. Et sinon, c'était vraiment des ginto, surtout du whisky en fait, surtout du whisky. Et puis alors, moi je buvais du Old Monk, un rhum ambré. Plein de mélasse, très 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 sucré. On coupait parfois avec du Thumbs Up, qui était l'équivalent du Coca-Cola indien, avec une tranche de citron. Et puis on mangeait des papors, de grandes chips un peu larges, très croustillantes, indiennes, donc avec beaucoup de cumin dedans. On ajoutait de la coriandre fraîche, en tout cas le serveur nous l'apportait avec de la coriandre fraîche, et puis des petits oignons frais également, des oignons rouges coupés en petites lamelles très fines. Là encore, on mettait un peu de citron et puis parfois on rajoutait du piment. Et puis ces lieux, ils étaient très étranges parce qu'il y avait très peu de femmes. Les femmes qui venaient, ce sont des femmes qui accompagnaient leurs hommes, c'était des escortes en fait.
Évidemment, le tournage ne va pas se passer comme prévu. Coupure d'électricité à répétition, fuite d'eau sur le plateau, caprice de star. Tout ça fait que la journée est une journée à rallonge. On ne sera pas de retour à l'hôtel à 20h30 comme promis. On part du studio vers minuit, minuit et demi. On arrive à Bombay, à Colaba, vers 2h du matin. Et je me dis que j'ai vécu une des plus belles journées de ma vie.
Donc moi, on m'a pris pour une escorte à plusieurs reprises. Mais comme j'avais pas tout à fait le look d'une escorte, on m'a pas très très bien pris non plus que je vienne. Donc c'était bizarre, c'était drôle. Les femmes, elles étaient en sari, très pailletées. Et moi, je suis là avec mes habits un peu occidentales. Je parle pas très bien hindi, je parle pas du tout marathi, encore moins gujarati. Avec mon ex, on parle un mélange de hindi et d'anglais. Et puis moi, j'observe et puis je note tout. Et j'ai envie de faire partie de cette vie-là, j'ai envie de m'appeler Rakesh, d'avoir des grosses bagues, un ventre un peu bedonnant, une chemise plus très propre, une moustache. J'ai envie de comprendre leur vie à ce moment-là. Ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, pourquoi ils passent autant de temps dans ces lieux avant de reprendre le chemin de leur tout petit appartement, souvent très très loin. Ils vont devoir reprendre le train de nuit, qui circule jusqu'à minuit, une heure en général. Et avec un peu de chance, ils vont essayer de ne pas se faire arrêter par les flics. Parce que Bombay, c'est aussi une ville de flics, c'est une ville de voyous, en fait. Et les gens qui fréquentent ces bars-là, ils savent ça. Ils savent que ça peut être un peu dangereux aussi de sortir en état d'ébriété. S'ils fument du charas, du hashish par exemple, ce qui arrive assez souvent, pas dans le bar directement, mais ça peut être dehors ou devant. C'est interdit officiellement par la loi, mais tout le monde le fait quand même, évidemment. Et puis, les flics, ils aiment bien patrouiller, ramasser quelques roupies en plus pour un oui, pour un non. Parce que les flics et les voyous à Bombay, c'est une autre esthétique de la ville aussi. Moi, ça me fait penser à cet acteur phare des années 2000 qui s'appelle Salman Khan.
Police wale ko thokne ka anjaam pata hai kya? 21 saal jail aur thukai alag se. Aur usi police wale ne galat mein thoka to promotion alag se aur bahaduri ka medal bhi.
Salman Khan, c'est le boss quoi, c'est le bhai, ça veut dire aussi le mafieux, le don. Et Salman, il incarne exactement ça, il incarne le flic un peu ripou, il incarne le voyou au grand cœur, c'est un bad boy, il a la cinquantaine, il en paraît toujours 30. Il est musclé, parfois il est tatoué, il a toujours une petite moustache pour que ça fasse un peu plus sérieux, surtout quand il joue des flics. Et puis je me rends compte que dans cette nuit de Bombay, ils sont tous Salman en fait. Et puis dans la nuit, dans le jour... Je me rends compte que tous les hommes, ils veulent ressembler à Salman. Le type ventru à côté de moi qui commande ses whisky, je pense qu'il rêverait de ressembler à Salman et il sait que c'est pas possible. Parce que Salman, il grossit jamais. Salman, quand il boit avec la classe d'un bad boy, il fracasse ses bouteilles sur les comptoirs, il fracasse les voyous dans la rue et ça fait des gros sons en général. Et Da Bank, c'est le film qui est sorti en 2010. Il incarne un flic bad boy un peu méchant, mais en fait, il a un grand cœur et il aime bien aider les villageois.
Robin Hood Pandey.
Ça se passe pas du tout à Bombay. Mais ce style de voyou, gentil, c'est aussi un style qu'on retrouve dans la rue. C'est le style Tapori, le style Gunda. C'est des types qui se baladent en bandana, sur leur moto. Ça peut être des Royal Enfield, mais en général, c'est plutôt des Bajaj, des grandes motos un peu cruiser. Moi, mon mec, il a une Bajaj. Et puis, mon mec, il ressemble un peu à Salman, en fait. Et quand on sort du bar de nuit, des fois, on remonte la ville comme ça, en moto, sur notre Bajaj, du sud au nord. Et là, je me rends compte que tous les mecs, ils font ça. Tous les mecs, ils sont sur des Bajaj. Tous les mecs, ils ont des sandales avec des chemises très près du corps pour montrer les muscles. Ils font de la gonflette. Et ils ont tous le look de Salman Khan. Et ces types-là, ça peut être aussi des flics, parfois. Mais c'est souvent des voyous. Et dans la nuit de Bombay, c'est eux les rois.
En plus, la nuit, tout brille, on ne voit pas la crasse, on ne voit pas les ordures qui traînent. C'était que du glamour. Il y avait la couleur, il y avait la lumière, il y avait les reflets. C'était vraiment une très très belle séquence. La mousson, c'est la saison de l'amour. Dans tous les films, ils sont trempés l'un contre l'autre, les scènes torrides, les saris collent à la peau. C'est bien plus sexy que le baiser qui était encore interdit à cette époque-là. Et là, quand la voix de Lata Mangeshkar accompagne le son de la pluie, c'est encore plus magnifique. En général, à Bombay, elle arrive au début du mois de juin, et puis on la sent venir. Et d'abord, il y a du vent.
Les souvenirs sont toujours vifs et grisants. Je me souviens des soirées, les week-ends, où on allait en famille à la plage de Chaupati pour se promener, vous voyez, sur le sable, pour profiter du soleil et de la brise marine.
Il y a la houle, il y a les corbeaux qui commencent vraiment à s'affoler. Et tout d'un coup, les premières gouttes de pluie, et là, on n'a pas vu la pluie depuis 9 mois. C'est la liesse, les gens sont trop heureux, les gosses courent dans les vagues. C'est magnifique.
Un jour, en sortant de la maison, dans la rue principale de Colaba, une grande rue pourtant, il y avait les gens, les hommes en blanc, parce qu'à l'époque, tout le monde était, très souvent, les gens étaient habillés en blanc, les hommes, qui se baladaient dans la rue, avec de l'eau jusqu'à la poitrine, tenant les mains élevées au-dessus de leur tête, avec leur attaché de caisse, leur gamelle pour le midi, c'était tous des gens qui allaient au bureau, et qui marchaient comme ça dans la rue, les bras en l'air. C'était dingue, et plein d'images de moussons sur le bord de mer, en plus, à Marine Drive. C'est un moment où on peut tout se permettre, tout bascule, on n'a plus les mêmes habitudes de vie, on peut toujours remettre à demain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, on a des excuses, le train a déraillé, le téléphone est en panne.
Puis la plage qui draine aussi cette odeur de merde, puisque les plages dans certains coins de la ville, dont le coin où j'habite, servent de toilettes à ciel ouvert. Et puis je continue de marcher sur Roca Road et sur Carter Road ensuite. Et là, j'arrive plutôt devant les coins chics et des beaux bungalows qui juxtaposent des bidonvilles. Puis là, ça sent un peu moins la merde et ça sent un peu plus les parfums chers et puis l'huile de noix de coco aussi. Et il y a pas mal de gens qui font leur marche du matin, surtout quand il fait moite et humide, entre deux douches de mousson. Des gens qui font leur jogging aussi et ça sent l'aftershave assez cher. Et là, j'ai devant moi la mer d'Arabie qui s'ouvre. Et elle est poisseuse, elle est grise, elle est moche en fait. Et en même temps, elle est belle. C'est ça le Bombay que j'aime. C'est un Bombay qui s'ouvre sur des promesses et qui est pleine d'espoir malgré cette vitesse qui est immaîtrisable, qui me dépasse tout le temps. Mais toujours, je reviens à la mer. Et à ce rivage qui est composé par les hommes de pierres noires, de brise-lames aussi. Et puis parfois, entre deux rochers, on voit des taches de couleurs et ça, ce sont les amoureux qui se cachent pour s'embrasser.
Je suis dans un autre taxi. Le trajet est magnifique. Il longe la mer, les mouettes, un soleil doux qui embrasse le paysage.
It's evening.
C'est le crépuscule.
The sun will set early.
Le soleil se couchera tôt ce soir.
La ville est en transe et attend le signal de la lune. L'astre opère sa dernière voltige. Soudain, la fabuleuse clameur des tambours et des cuivres parcourt Bombay. Enfin, la ville est hindoue. Et cette année, Ganesh n'est pas partageur. Pas question de laisser les familles musulmanes se joindre aux festivités. La manifestation demeure le meilleur des baromètres pour mesurer les tensions religieuses. Les parades sont le grand prétexte pour délimiter le territoire. Alors éclate toute la démesure de la ferveur safran, toute la volonté guerrière de reconquérir les territoires hindous de Bombay sur ceux de l'Aïd. Bien sûr, dans le bidonville, c'est plus compliqué. La promiscuité empêche les guerres de tranchées.
J'ai fait pas mal de photos noir et blanc quand c'était l'histoire de Ganesh Pati ou Pagoria, où ils amènent, les Indiens amènent des quantités de sculptures en plâtre peintes de 2-3 mètres de haut, parfois, qu'ils amènent dans la mer et qu'ils laissent. Donc le lendemain, à marée basse, on a toutes ces sculptures en plâtre qui nous regardent à moitié enfoncées dans la vase.
On est resté plusieurs semaines à Bombay pendant la mousson, et à la fin de notre tournage, près de chez nous, il y avait un mur en béton, il était complètement recouvert de mousse déjà. Il y avait autour des colonnes de la véranda, il y avait les lianes qui avaient grimpé jusqu'au toit. Il y avait les arbustes qui avaient écarté les pierres dans la rue. À côté, il y avait des tas de pierres écartées, des arbustes, des arbres carrément qui surgissaient hors des murs. C'était hallucinant.
On peut imaginer des dizaines de milliers de blanchisseurs, qu'on appelle les dobies, qui sont devant des trous remplis d'eau, en bord de mer, et qui inlassablement frappent les linges, les draps des grands hôtels, les robes de la grande bourgeoisie de Bombay, frappent sur des rochers pour extirper la crasse, et ensuite ils les pendent sur des milliers et des milliers des centaines de kilomètres de fil. Et vous avez tous ces draps multicolores, dans toutes les couleurs, qui claquent au vent. C'est un spectacle pas romantique, mais complètement surréaliste, quoi, je veux dire, et graphique, voilà.
Quand je pense à Bombay, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'odeur de la ville. Le matin, un dimanche par exemple, ou un samedi, un jour où je vais pas aller au travail. Et un jour peut-être de mousson aussi, puisque c'est des moments un peu calmes quand c'est la mousson, bizarrement. C'est à la fois très frénétique et en même temps il y a quelque chose d'apaisant. Écouter la pluie tomber par rafale parfois, et puis parfois c'est juste un chuintement. Et puis moi je suis là, j'habite à Car, dans la banlieue ouest. C'est pas très très loin de la mer, et des fois le matin il y a des effluves. C'est des effluves de crevettes séchées, aussi un peu l'odeur de la moiteur, de l'humidité.
En fait, on se lève humide, on regarde le ciel, on se lave, on ne sèche pas, on s'habille humide. On a de plus en plus l'impression de se diluer dans la ville.
Des fois, j'ai envie de fermer les fenêtres, mais c'est trop tentant de laisser quand même un peu l'air passer. Surtout qu'il fait chaud, il fait humide. Ça fait ressortir un peu les traces et les taches de moisissure dans mon appartement. Et puis, il y a toutes ces fenêtres grillagées. Donc, je préfère voir le ciel plutôt que baisser les vitres. Et puis, moi, j'aime bien, puisqu'on entend aussi le bruit des marchands, des vendeurs ambulants. Il y a tous ces gens qui appellent en permanence, les sabziwala, les vendeurs de légumes, mais aussi les radiwala, les gens qui viennent chercher, collecter les déchets de papier, puisqu'on trie, en fait, rien ne se perd et rien ne se jette à Bombay, évidemment. Puis c'est un peu des jours où c'est plus calme aussi, il y a moins d'allées et venues dans les appartements, entre les étages, même si les gens sont chez eux.
On habite dans un immeuble récent, mais qui est déjà décati par quelques saisons des pluies. Le quartier est assez chic, mais des dizaines de familles vivent dehors, sur le trottoir. En cette saison, les petits cireurs de chaussures retournent à l'école, parce qu'il n'y a plus de boulot pour eux. Tout le monde marche avec des chaussures en plastique.
En période de mousson, évidemment, on répare jamais rien. Donc les crevasses deviennent des trous et les trous peuvent devenir des puits sans fond avec des égouts derrière. Donc il faut faire attention où on marche. Et puis ça m'arrive aussi de casser mes sandales, d'avoir la semelle qui se décolle. Heureusement, il y a des cordonniers un peu partout dans leurs petits établis minuscules et qui se referment la nuit en général. C'est des petits placards portatifs en fait. Et le type est là, accroupi, avec plein de sandales devant lui, des jutas, plein de chappals en fait, comme on appelle ça. Et puis il répare, et souvent, moi, j'aime bien, parce qu'en fait, je leur achète des fois des sandales de rab, au cas où ma sandale pète. Ça me donne une bonne excuse d'acheter une nouvelle paire, souvent très colorée. Il y a toujours des modes différentes, ça change à peu près tous les mois. C'est pas simple de marcher sur le pavé, en fait, parce que les trottoirs sont quand même très, très souvent défoncés. Et puis, il faut comprendre un peu comment les gens marchent dans cette ville. Ils marchent pas toujours droit. Et quand ils marchent droit, ils vous foncent dessus, surtout les hommes. Ils n'ont jamais tendance à s'écarter, donc c'est toujours à nous de s'écarter, les femmes. Donc moi, évidemment, ça me saoule, mais j'ai l'impression qu'on ne me voit pas, en fait.
Et oui, et l'autre chose, en fait, vraiment la plus plaisante, la plus remarquable de mon quotidien de Bombay, c'était le chai, à la fois dans des petites échoppes, donc j'avais mes habitudes dans des différentes échoppes autour du logement dans lequel j'étais, mais aussi le chai dans la rue, quoi. Donc soit en allant se rapprocher des gens qui avaient des sortes d'énormes marmites de chai.
La drogue 100 fois bouillie d'un peuple édenté. Nectar de katsu, griserie vite oubliée. Une pauvre trêve dans la vaine journée d'une existence sans but. Vue à travers la vapeur de ce breuvage à 5 roupies, la ville tremble comme un mirage. Pas d'arbres en bordure des routes. Pas d'administration pour réparer les nids de poules. Personne n'a le pouvoir. Personne n'est responsable. Plus vite on boit, plus vite on est réduit à contempler la poussière de thé au fond de son gobelet de plastique.
J'ai bu plusieurs chais par jour, tous les jours, pendant 4 mois. Et ça m'a permis de me sentir au bon endroit, à ma place, moins étranger, quoi.
Et là, plaisir ultime, je m'allume une Godan Garam, c'est une cigarette au clou de girofle. Et boire un chai avec une Godan en lisant mes journaux, c'est la définition de la sérénité, du calme et du bonheur un dimanche matin à Bombay.
Pour finir ce portrait de Bombay en chanson, on fait un détour par le Punjab. On est avec Tujhe Dekha. C'est une chanson immortelle, je dirais, du film Dilwale Dulhania Le Jayenge, un film de 1995 de Aditya Chopra. C'est un film qui me fait penser à Bombay, même s'il ne se passe pas du tout à Bombay, parce que depuis qu'il est sorti en 1995, il est diffusé en continu dans un cinéma de la ville, le Maratha Mandir. Je me suis promis à moi-même que la prochaine fois que j'irai à Bombay, je commencerai mon voyage par une séance de cinéma au Maratha Mandir pour voir Dilwale Dulhania Le Jayenge, que j'ai déjà vu des dizaines de fois, bien sûr, mais jamais en Inde et jamais sur grand écran.
Océan Bombay avec l'écrivain Raj Menon,
Noises, Flavors, Smell,
l'enseignante Vidya Venkatesan,
le sucre est plus sucré et le sel plus salé ici,
l'historienne Manjiri Kamat,
so many memories of the city,
le psychiatre Régis Hérault.
Je dis, mais c'est pas possible.
La journaliste Cléa Chakraverty.
C'est ça, le Bombay que j'aime.
L'anthropologue Hélène Kessous.
Même s'il ne se passe pas du tout à Bombay.
La cinéaste Carole Ekerami.
On est là juste en train de regarder ce qui se passe autour de nous.
La chercheuse Christine Iturbide.
C'est un autre monde qui apparaît.
L'enseignante Viba Kamat.
Aujourd'hui, les choses ont changé, bien sûr.
La chercheuse Éléonore Mujhideen.
30 roupies pour une place au balcon.
La romancière Marie Saglio.
Savoir tenir sa place dans le flot des rues.
Le réalisateur Jonas Pariente.
Me sentir au bon endroit, à ma place.
La réalisatrice Marie Sushila Leni.
Et de la bonne manière.
Le journaliste Pierre Josse.
Surréaliste, quoi, je veux dire, et graphique, voilà.
Biographie complète sur la page de l'émission. L'expérience, coordination, Aurélie Charon, assistée d'Inès Duperron. Prise de son, Mathieu Leroux. Traduction, Céline Lozen. Mixage, Éric Boisset. Réalisation, Jean-Philippe Navarre. Un documentaire de Michel Pomared.
C'est ma ville, c'est Mumbai.
Bon baiser de Bombay.
Amchi Mumbai.